Mon époque, ma radio. Allô la planète avec Eric Lange sur lemove.fr.
Et je vous rappelle que pour nous joindre, pour discuter avec nous à l'antenne, c'est tout simple, vous envoyez un message, un mail à louplaplanète@radiofrance.com, vous passez par la page Facebook de l'émission, la page d'Allou la Planète, et puis le répondeur 331 56 40 54 54, l'Australien du jour est une Australienne.
Allô la Planète, sur le monde.
Bonjour Fanny, bienvenue.
Bonjour.
Ça va bien, t'as l'air tout... Oh, t'es toute bien réveillée, tout ça.
Ah oui. Ici, il est 21h, donc oui.
Ah oui, il est 21h, oui. J'étais en train de me dire, il est tôt le matin. Non, j'arrête pas de me mélanger les pinceaux dans les décalages horaires, moi, avec cette émission. Fanny, mais alors, j'ai pas tout compris, c'est la fin du voyage, là ?
Oui, enfin non. Oui. C'est, en fait, c'est la fin et le début. C'est la fin de l'aventure dans le bush australien et c'est le début, dans une semaine, de mon road trip en Australie sur la côte est.
Ah, je croyais que tu avais commencé le road trip. Non, c'est pas encore fait. Alors, on va recommencer au début. Fanny, t'es jeune, Fanny ? T'as 19 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça, j'ai 19 ans.
Waouh ! Et t'es partie donc en juin dernier pour une balade en Australie. Combien de temps ?
Alors, en fait, je suis partie 5 mois. Donc, ça, c'est dans le cadre de mes études. Ouais. Je fais partie de l'ISA à Lille. Et donc, c'est 4 mois de travail et 1 mois de road trip. Donc, moi, ce sera 2 semaines, mais. Donc voilà, et là ça va faire 4 mois que j'y suis.
Qu'est-ce que tu fais comme étude, pardon, tu m'as dit, c'est quelle école ?
L'ISA, donc c'est l'Institut supérieur d'agriculture qui se trouve à Lille.
Ah d'accord, et dans le cadre de ces études, que tu as commencé il n'y a pas longtemps j'imagine, tu es en première année, alors deuxième année ?
Je vais rentrer en troisième année en fait, en école d'ingénieur du coup, parce que j'ai fait 2 années de prépa et là je rentre en ingénieur du coup.
À 19 ans, tu as passé ton bac, 2 années de prépa, tout ça ?
Oui, non, mais en fait, c'est parce que je suis de fin d'année, donc...
Tu es quoi ? Ah oui, tu es de fin d'année.
Ouais, j'ai 20 ans, voilà, c'est ça.
Ouais, bon, enfin, quand même, hein. Enfin, j'en connais des. Bon, bref. Et donc, dans le cadre de ces études, on vous a demandé de travailler 5 mois à l'étranger.
Voilà, donc pour passer justement du cycle préparatoire au cycle ingénieur, l'école nous propose justement de partir à l'étranger, donc c'est une césure, c'est une rupture, enfin, on appelle ça une rupture.
Ouais.
Et donc, on est obligé de travailler 4 mois pour avoir une expérience professionnelle à l'étranger, voir un petit peu comment ça se passe, etc.
D'accord.
Et puis, généralement, les étudiants font 1 mois ensuite
de balade
pour découvrir plus la culture, etc.
Et l'Australie, c'est un choix que toi, tu as, parce que j'imagine que vous pouviez aller n'importe où dans le monde.
Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. On peut aller vraiment partout dans le monde. Enfin, l'école ne nous impose pas de choix particulier, sauf les pays dangereux où on n'avait vraiment pas le droit d'y aller. Mais,
évidemment.
Mais sinon, oui, on avait le droit de choisir et puis, j'ai choisi l'Australie parce que c'est un pays qui, bah déjà, d'une part, qui était assez loin. Et beaucoup de gens m'ont dit, écoute, t'es jeune, donc profites-en et pars là où tu veux, t'as envie de partir. Et voilà.
J'ai été faire un tour sur ton blog. Il y a une chose que tu expliques, c'est qu'il faut, pendant ces 5 mois, être autosuffisant. C'est une des demandes de l'école, c'est-à-dire.
Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, durant les 5... En fait, l'école nous demande de trouver un job qui nous permettra de vivre pleinement en Australie, en fait, de ne pas devoir prendre de l'argent de France.
D'accord.
Donc,
C'est une expérience professionnelle et humaine en même temps qu'ils vous demandent de...
Enfin, voilà, c'est ça. Pour avoir les deux visions, en fait, du monde professionnel et puis du monde... de la culture en général, etc.
Mais dis donc, ils rigolent pas dans ton école, hein, c'est bien. Et alors, tu t'es retrouvé dans une ferme, si j'ai bien compris, une ferme en Australie qui est complètement paumée.
Oui, c'est un peu ça, oui. En fait, j'ai trouvé, grâce aux années précédentes, un monsieur, donc c'est un agriculteur qui a bien voulu m'accueillir dans sa ferme, donc pendant 4 mois. Et oui, c'est totalement perdu. C'est dans le bush, donc la première ville est à 2 heures de route, donc voilà.
Et c'est où géographiquement, t'es où ? T'es dans le centre, à l'est ?
Je suis dans le Queensland, donc dans le nord de l'Australie, dans le bush australien, dans le nord,
En dessous de Darwin, là-bas, quelque part,
c'est ça ? Oui, c'est ça, en dessous de Darwin.
C'est là où il y a des exploitations immenses de la taille d'un département français.
Et
les types, ils font, pour aller surveiller les vaches, il faut prendre un hélicoptère, j'exagère à peine.
Mais en fait, justement, ils ont des hélicos justement pour aller voir les bêtes, parce que ici, c'est vraiment c'est assez important. Et généralement, ils empruntent un hélico une ou deux journées pour pouvoir rapatrier les vaches lors du muster.
Ah, c'est ça.
On fait des musters, en fait.
J'avais rencontré un type en Australie, comme ça, qui m'avait expliqué que de son exploitation, bon, il partait souvent en voiture, si tu veux, faire des tournées, et il avait des endroits où il laissait des petites motos. Des espèces de petites baraques où il savait qu'il avait une petite moto là, qui avait le plein, qui lui permettait, si jamais il tombait en panne, il allait jusque là et il pouvait repartir. C'est tellement le truc était immense, quoi. Ils ont des mesures comme ça. Non mais c'est fou. Et t'as passé 4 mois donc, 5 mois dans cet univers
mois,
perdu tout, c'est peut-être une sacrée expérience.
Oui, c'est une sacrée expérience, tant au niveau professionnel qu'humain, parce que tout est vraiment différent ici. La manière de voir les choses, les gens, la manière dont ils se parlent, etc., c'est totalement différent. C'est vrai que c'est vraiment intéressant à découvrir, quoi, parce que c'est vrai que ça fait 4 mois que je suis dans le bush et j'ai rencontré énormément de personnes, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand monde. Et entre les backpackers, les gens qui viennent apporter le courrier... les gens qui viennent faire le plein des voitures, etc., qui remplissent les tanks, les pilotes donc d'hélicoptères, d'avions, etc., qui viennent, les fermiers aux alentours. Il y a une grande solidarité, en fait, et du coup, c'est vrai qu'on rencontre énormément de monde, et finalement, en restant dans un même lieu, on peut faire énormément de choses, donc c'est assez, assez rigolo. Je m'attendais pas à ça, en fait.
Et ça t'a attiré comme vie? Tu te vois faire un truc comme ça?
En fait, au départ, je me disais, waouh, c'est génial, c'est formidable d'être justement paumé un peu au milieu de rien, parce que vraiment, on peut se retrouver soi-même. C'est vraiment ça, c'est vraiment génial pour ça. C'est que voilà, on fait un point sur nous-mêmes, on est seul. Et puis très vite, je me suis rendu compte que voilà, c'est plus pour moi une expérience, mais je pourrais pas vivre comme ça toute ma vie, parce que j'ai besoin de découvrir d'autres choses et de vivre d'autres choses plutôt que de rester dans un seul endroit avec des vaches.
Et donc, tu étais dans une famille, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, je loge chez Edgar, donc c'est mon employeur.
Ouais.
Et donc, du coup, on est deux backpackers, en fait, on travaille H24 sur la ferme. Et donc, en fait, on loge dans des bungas, donc c'est des petites maisons sur pilotis. Qui nous sont attribués, en fait, et puis on a notre petite chambre. Sinon, on mange avec notre employeur le soir et le matin.
Et eux, la famille, ton employeur, ils ont des enfants comment ça se...
Oui, alors en fait, le fils de mon employeur a une autre ferme qui
D'accord.
se trouve un peu plus loin, donc à 5 heures de route. Et donc le fils gère l'autre ferme et puis Edgar gère celle-ci, du coup.
Ouais, parce que c'est là-bas aussi. Avant, il y avait une école par radio. Je ne sais pas si ça existe toujours pour les enfants qui habitaient dans ces fermes.
Oui, et non, c'est ça.
Ça existe toujours.
Il
y a une radio, il y a une école qui est à Alice Springs. Et les profs font les cours par radio. J'avais vu ça, j'avais assisté à ça. C'était très touchant. C'était le prof qui est tout seul dans son studio de radio, comme ça, avec un micro. Et il faisait l'appel. Il disait non, je te jure. Et il faisait John. Et puis tu entendais une petite voix qui sortait du haut-parleur. Yes, sir. Et puis en fait, tous ces gamins étaient à des centaines de kilomètres les uns des autres. Et ils étaient réunis pour les cours, comme ça. Alors je me demandais si ça existe toujours ou si avec Internet. Non, ça existe toujours. Ouais.
Oui, en fait, ils m'ont expliqué qu'ici, c'était vraiment difficile. Ben, les écoles sont vraiment très loin. Et donc, généralement, quand ils sont petits, donc généralement, l'école primaire, ils la font à domicile. Donc, ils ont les cours par radio. Et puis ensuite, ils partent en internat, donc dans les grandes villes, généralement.
C'est dingue.
Et ils ont des fois 10 heures de route pour y aller. Donc, il faut être, je pense, assez mature et avoir un certain âge pour pouvoir commencer ce genre de...
De
voyage, quoi.
Et alors, je reviens à toi professionnellement, enfin pour tes études, ça t'a appris beaucoup ça?
Oui.
Oui. J'imagine.
En fait, je me dirige plutôt vers le secteur agriculture, parce que notre école propose agriculture, agroalimentaire et environnement. Ouais. Et c'est vrai que là, ça m'a vraiment ouverte sur un autre système qui est totalement différent de celui qu'on peut avoir en France. L'élevage des vaches, c'est totalement différent. Et c'est vrai que ça a été vraiment intéressant. Justement de voir un peu les moyens mis en œuvre pour gérer une exploitation aussi grande que celle-ci c'est quand même un tout autre point de vue par rapport à la France, quoi. Et puis le point de vue aussi sur le bétail n'est pas le même.
Ouais.
Ici il y a 3000 vaches, donc du coup une vache en moins ou en plus, c'est pas trop grave. par rapport à la France, par exemple, où on a des troupeaux de 75 vaches, peut-être.
Ouais. Ah, c'est fou. Dis donc, ouais. Fanny, 20 ans, 19 ans, sacrée expérience. Waouh.
Oui, non, c'est chouette.
Non, non, c'est... Et alors donc là, quoi, dans les jours qui viennent, tu vas partir te balader un mois dans la région.
Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Juste pour, bon, en fait, j'ai prévu la côte Est. Mm-hmm. C'est essentiellement parce que c'est pas trop loin et puis aussi parce qu'il y a tous les points. Il y a Sydney, il y a Melbourne, il y a Airline Beach et tout ça. Donc,
la grande barrière, la grande barrière de corail, les surfeurs, tout voilà. Ça. Il faut quand même aussi s'amuser un peu. On va pas faire que compter les vaches pendant un an.
Ah voilà, c'est ça. Récompense du travail.
Ah bah dis donc. Alors attends, juste deux petites choses que j'ai vues sur ton blog. Oui, c'est un peu comme l'histoire de l'école et tout ça. Quand elle fait les courses, la dame, tu disais, elle fait ses courses par fax et c'est livré deux fois par semaine par le postier. C'est comme ça qu'on fait les courses.
Voilà,
là-bas.
C'est ouais. Ça.
Ça me rappelle aussi, quand t'appelles SOS médecin là-bas, c'est un avion qui arrive. Flying Doctors, ils appellent ça.
Ouais. Ouais,
c'est un autre monde. Oui, et alors une petite info incroyable que j'ai vue, si tu tues un chat, c'est $10 si tu ramènes la queue.
C'est ouais, fou, c'est ça. À un moment, il y a eu une invasion de chats dans le bush, et donc du coup, le gouvernement a décidé de mettre en place des offres pour ceux qui rapporteraient des queues de chats. Et là-bas, le chat est considéré non pas comme un animal de compagnie, mais plutôt comme un animal à abattre. Donc,
ne ramenez pas vos chats. Cela dit, ça va en choquer, mais en Australie, il faut savoir qu'ils ont ce problème avec pas mal d'animaux. Il y avait les lapins à un moment. C'est des animaux qui ne devaient pas être là, que l'homme, l'Occident, les Occidentaux ont apporté avec eux. Et du coup, ils se retrouvent à croître et à multiplier de façon incroyable. Et ça devient des nuisibles, quelque part.
Ouais. Oui, voilà, ils sont considérés comme nuisibles. Et en discutant avec plusieurs agriculteurs, plusieurs fermiers, c'est vrai qu'ils ont tous le même point de vue, c'est les animaux qui viennent pas d'Australie, on les tue.
Sinon, ça pose trop de problèmes. Ouais,
ça pose trop de problèmes. Et puis aussi, ils sont très attachés, en tout cas, enfin, les gens que j'ai rencontrés, sont très très attachés à l'Australie et aux natives d'Australie. En fait.
Ah ouais ?
Et tout ce qui a été importé par l'histoire, en fait, ils sont pas trop pour.
D'accord. Bon, et ils ont des réglementations très sévères. Hein. Parfois, tu passes d'une région à l'autre, t'as pas le droit d'importer même des fruits et légumes, des choses comme ça.
C'est... C'est ça. C'est vrai que là-dessus, ils sont assez, assez stricts.
Ah, bah Fanny, ravie. Oui, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, c'est une super expérience.
Oui. Bon, bah Fanny, bonne route. Merci d'avoir pensé à nous. Bonne route. Amuse-toi bien pendant ce petit mois là de balade. Et puis rappelle-nous quand t'es sur la route, dans 15 jours, 3 semaines.
D'accord.
Hein, pour nous raconter.
Je peux passer un petit bonjour ou pas?
Mais bien sûr, vas-y.
Merci. Je voulais dire bonjour à tous mes amis, toute ma famille, à tous les gens qui m'ont soutenu durant ce voyage. Et pour ce voyage et ce qui m'ont permis de le réaliser. Merci Alissa aussi qui m'a permis justement de pouvoir partir à l'étranger.
J'ai l'impression d'être aux Oscars, tu sais. Merci papa, merci maman, sans qui je n'aurais jamais eu cette récompense. Bon, bravo Fanny, c'est bien, bravo. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Bye.
Merci, au revoir.
Bonne journée, bonne soirée, ciao.
Bonne journée.
Alors sur Facebook, elle s'appelle Kiki Noé, mais je pense que ce n'est pas ton vrai nom. Allô?
Non, ce n'est pas mon vrai nom.
Non, j'ai eu peur.
Allô?
Oui, bonjour, c'est Noémie, c'est ça?
C'est ça.
D'accord. Bienvenue dans l'émission, Noémie. Tu as une bouteille à la mer, tu cherches un bateau?
Non, j'ai trouvé le bateau, mais je cherche des endroits pour après le bateau.
Bon, alors le bateau, il part d'où et quand?
Le bateau, il part le 15 octobre du Faro, au Portugal. Et on fait les escales un peu classiques et on va jusqu'en Guyane.
Comment tu l'as trouvé? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à demander ce genre d'informations.
J'ai cherché sur la bourse aux équipiers. Il y a pas mal d'annonces sur le net, foireuses, mais il y en a quelques-unes qui sont intéressantes et ça vaut le coup d'aller rencontrer les gens avant pour naviguer un peu avec eux.
Ah, il y a des foireuses, c'est-à-dire
Nous, on a vu une annonce d'un couple. On s'était dit, partir avec une famille, ça peut être chouette. Et puis, à la fin de l'annonce, tu t'aperçois qu'en fait, ils cherchent quelqu'un de totalement libéré. Et avec qui ils pourraient avoir des relations pendant la traversée.
Non, C'est pas vrai, d'accord. Il y a des trucs pareils.
Au moins, c'est clair.
Non, il y a intérêt à ce que ce soit clair si tu te retrouves coincé après au milieu de l'Atlantique.
C'est ça, vaut mieux. C'est pour ça que c'est chouette de les rencontrer avant, de naviguer un peu avant.
Avec les libertins de base. Non, je voudrais partir, là, s'il vous plaît.
Je veux juste faire la traversée, les gars.
Oh, je m'attendais pas. Il y a des mecs qui mettent des annonces comme ça.
Oui, j'étais bien étonné quand j'ai fait mes recherches. Quoi.
Bon, on savait pas. Faites attention donc, aux petites annonces pour les équipiers en bateau. Parfois, ça peut être glauque. Bon, donc, t'en as trouvé un. Tu pars en Guyane. Qu'est-ce que. Oh, t'as de la chance, tu vas traverser l'Atlantique en bateau. T'as déjà fait ça hein?
Non, j'ai navigué un petit peu, mais j'ai jamais fait autant. Là, on prend 3 mois pour faire ce trajet.
3 mois pour traverser? C'est long, non?
Oui, on peut le faire en beaucoup moins long, mais prend le temps comme ça, on apprend à naviguer.
D'accord, bah c'est chouette. Et alors, une fois là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu pars pour
quoi? Alors, l'idée, c'est je pars avec ma corde et mon baudrier, et l'idée, c'est d'aller faire de la danse verticale au Brésil et en Argentine, surtout. On passera par là où on passe.
Attends, j'avais jamais eu ça dans l'émission encore. Tu pars faire de la danse verticale au Brésil?
Oui.
Drôle d'idée. Non, c'est bien. Pourquoi pas?
Je sais pas si tu visualises ce que c'est.
Bah, c'est quand vous êtes attaché au bout d'une corde et vous dansez dans l'air. Je sais pas. Non, en fait, je dis ça.
Tu peux faire des acrobaties sur une façade d'un immeuble, mais tu peux aussi être suspendu dans un arbre et chercher faire
des mouvements. La danse, c'est pas toi qui m'as envoyé ça. J'ai reçu il y a pas longtemps une vidéo par internet où il y a deux danseurs comme ça qui font tout un spectacle sur un building. Non, t'as pas vu?
Non, j'ai pas vu.
C'est magnifique. Ouais, c'est de la danse classique. Ils sont accrochés à leur corde là et ils dansent. Mais à un moment, par moment, t'oublies. Tu sais que c'est à la verticale. C'est filmé comme si c'était à l'horizontale et t'as l'impression qu'ils volent.
Je regardais pas mal de.
Tu fais ça toi? D'accord. Mais tu.
Je commence à faire ça. Avant, je faisais du trapèze volant et maintenant, j'essaye de faire ça.
Mais tu fais ça professionnellement? Enfin, c'est ton.
C'est un peu l'idée. Ouais. Là, je peux plus faire de trapèze volant professionnellement et du coup, j'essaye de trouver le moyen d'être dans les airs sans utiliser mon bras.
D'accord. Et quand on dit professionnellement, ça conduit à quoi? À faire des spectacles? À bosser dans des...
Oui, voilà. Ouais. C'est plus pour essayer de le sortir en spectacle de cirque, de danse, de théâtre, un peu mélangé.
D'accord. C'est chouette, c'est bien. Et pourquoi au Brésil? Comme ça? Pourquoi pas? Tu viens de dire.
Au Brésil, il y a beaucoup de trapèzes volants. Et donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de trapèzes volants autres que le Club Med. En Argentine, il y a beaucoup de danse verticale et il y a pas mal de paysages où j'irais bien suspendre ma corde pour voir ce qu'il y a possibilité de faire.
Oui, il y a ce délire-là aussi, c'est de le faire dans des endroits magnifiques, c'est ça.
Oui, voilà, pour essayer de ramener des images intéressantes. Quoi.
J'aurais tout appris dans cette émission, il y a beaucoup de danse verticale au Brésil, d'accord. Et en Argentine. Bon, alors la bouteille à la mer, c'est si quelqu'un connaît quelqu'un qui fait du trapèze volant ou de la danse verticale en Argentine et au Brésil, c'est ça, des contacts?
Ou même une ferme où on peut travailler dans la ferme et répéter les spectacles en même temps.
Oui, il faut une ferme avec une falaise.
Oui, ou des arbres, où nous on s'installe dans l'espace qu'il y a de disponible, mais c'est juste comme ça, on peut et travailler un petit peu dans un espace et faire nos créations en même temps.
D'accord. Bon, on lance la bouteille à la mer, si quelqu'un connaît
quelqu'un. Si à n'importe quel espace, on est bon.
Ça marche, c'est parti, on va la mettre sur la page Facebook de l'émission. Et puis bonne route à toi, bon vent, on te tient au courant au fur et à mesure. Ça marche?
Je rappellerai. On est parti pour un an, donc on a le temps.
Ah on compte sur toi, Ok, ça marche. À très bientôt alors. Merci.
Merci bien.
Salut. Alors, on a Joël qui nous a appelé depuis l'île la plus éloignée du monde. Joël?
Oui, Eric. Salut, Eric.
Mais alors, comment s'appelle ton île, mon cher Joël?
Tristan d'Acuna.
Pourquoi?
L'archipel de Tristan d'Acuna.
Pourquoi dit-on que c'est l'île la plus éloignée, enfin la moins accessible, c'est ça?
Ouais, c'est l'île habitée la plus éloignée au monde. Pour la rejoindre, il n'y a pas d'aéroport. Et en fait, elle se situe à mi-chemin entre Le Cap et Rio. Elle est à 2800 km du Cap, 2200 km de l'île de Sainte-Hélène. C'est la même circonscription, on va dire, de territoire britannique. La rejoindre, il n'y a qu'un seul moyen, c'est le bateau depuis Le Cap.
On est dans l'Atlantique Sud, alors, c'est ça, à peu près?
Oui, voilà. Au niveau 37 degrés, donc au niveau presque des 40e rugissant.
Et elle est grande comment, ton île?
Elle fait 96 km carrés, c'est un volcan. Et dans sa, son diamètre, une dizaine de kilomètres, en fait. Elle est haute 2000 mètres, il y a de la neige sur le sommet.
Ah ouais.
Et une couronne de nuages.
Ouais.
Et puis un tout petit endroit où il y a du sol, enfin de la terre, et quelques personnes s'y sont posées, ont cultivé. C'est le bout du monde, mais...
C'est incroyable. Ah oui, je regarde en même temps que je te parle, je regarde sur Internet, il y a 7 ou 9 bateaux par an qui vont là-bas seulement.
Ouais, c'est ça. Il y a 9 bateaux par an qui passent.
9 bateaux.
Ah, et qui ravitaillent les Tristanais. Et puis qui en même temps emmènent les langoustes. Parce que le seul moyen le seul business, entre guillemets, c'est la pêche de la langouste dans les eaux profondes. Et ils peuvent sortir seulement que 40-50 jours par an, tellement au milieu de l'océan, au niveau des 40e, c'est des creux en permanence, quoi. Il y a toujours du vent.
C'est ce que j'allais te demander. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Joël, le climat, c'est comment? Alors, vous êtes balayé par les vents en permanence, là-bas?
Ah ouais. C'est océanique... Atlantique, donc il y a un moment, là on entre dans le printemps austral, et les fleurs commencent à s'ouvrir, les albatros commencent à s'accoupler, quoi.
Alors donc il y a un grand volcan, et autour une petite bande de terre, et c'est tout, battue par les vents, et il y a du monde là, je vois, il y a 7 familles qui habitent, c'est ça?
Ouais, il y a 7 noms de famille initialement. Et en fait, il y a 260 habitants. Enfin, et l'annuaire de l'île, j'ose dire,
deux pages.
T'as 7 noms, et puis t'as tous les prénoms, en fait.
Mais il faut pas s'engueuler, tout le monde connaît tout le monde.
Il y a un conseil de l'île. Donc depuis la fin des années 50, le gouvernement britannique a envoyé un administrateur régulièrement.
Ouais.
Mais ils ont été coupés du monde. Par exemple, c'est le seul endroit qui n'a pas été touché par la grippe espagnole. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, aucun bateau n'est passé. Ils ont su que l'armistice était signé à la fin de 1919. Ah, tu vois,
c'est dingue.
Et ils s'autosuffisent, en fait.
Ça marche tout seul. Oui, ils n'ont pas finalement, ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés. C'est pas un besoin vital. Ils peuvent se débrouiller tout seuls.
Ouais.
Ouais.
Jusqu'en 1960, il n'y avait pas d'argent sur l'île. Les gars, ils sont à la fois pêcheurs, ils vont tuer un bœuf, ils vont avoir plusieurs rôles et statuts en fonction de l'heure de la journée, en fait.
Ah, c'est un fonctionnement bizarre. Ah ouais. Alors le matin, t'es pêcheur, l'après-midi, t'es quoi? Enfin oui, t'es prof.
Ouais, l'après-midi, tu vas... Alors le matin, quand c'est la pêche, c'est la journée complète.
Ouais.
Tu sais, il sonne le gong dans le village sur une bouteille de gaz à 4h30, jour de pêche. Donc là, branle-bas de combat, on met les bateaux à l'eau via une grue parce qu'il est inconcevable de les laisser dans le port, le petit port en fait, parce que avec les vagues, ils sont éclatés en moins de deux, quoi. Donc on les met à l'eau, ils partent. Et puis, ils sont en journée de pêche toute la journée. Et puis le lendemain, si c'est pas de pêche, ils travaillent pour le gouvernement quelques heures. Alors, soit plombier, soit dans le département agriculture, le département électricité, etc. Et puis l'après-midi, ils vont récupérer leurs vaches, planter pommes de terre. Ils sont agriculteurs, enfin... Ils sont polyvalents, quoi.
Mais c'est fou comme
vie. Et les dames, le lendemain de pêche, elles vont travailler à la langousterie.
Si c'est la fin du monde, ils le sauront pas. Si demain il y a un immense conflit mondial, on meurt tous, il restera plus que 261 personnes sur une petite île avec des homards. Ouais. D'accord. Ouais, c'est fou.
Et le homard, il est. Tu dégustes ça.
Mais. Mais il s'ennuie pas. Enfin, je sais pas, il y a un café, un bistrot, quelque chose, non?
Ouais, il y a un pub.
Donc il y a un pub.
Il y a une poste. Il y a un supermarché. Donc enfin un supermarché, on s'entend.
Ouais, ouais.
Rosalée, t'imagines une épicerie, l'épicerie d'Ouessant ou encore plus petit quoi. Et il y a un hall, donc une salle des fêtes, et puis quand c'est l'anniversaire d'une personne...
Bah, tout le monde est invité.
Un anniversaire, bah, tout le monde est invité.
Mais comment ils font pour,
dire,
comment ils font pour se reproduire, là, les 261 ils ont, il y a des mariages, des choses, enfin, force.
Ah ouais, 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 il y a des mariages. Il y a, tu vois, il y a pas de consanguinité, en fait. Historiquement, c'est une île qui a été peuplée. À l'origine, ça a été découvert en 1506 par Tristan da Cunha, un navigateur portugais. Ouais. Il n'a même pas posé le pied sur l'île, d'ailleurs, pour l'anecdote, qui lui a donné son nom. Et puis, elle a été un peu oubliée. Il y a eu Bouvet qui est passé à la fin du XVIIe siècle, donc Inaccessible Island, une île à une heure de bateau de Zodiac d'ici. Donc, elle est inaccessible, en fait. Il n'y a qu'un endroit où tu peux éventuellement poser le Zodiac. Et puis, quand Napoléon a été prisonnier à Sainte-Hélène, ouais. Les Anglais, pour éviter qu'ils fassent le coup de l'île d'Elbe, ils ont mis une base militaire à Tristan da Cunha, bien que ce soit à 2200 km et qu'il n'y ait pas de bateau à moteur à ce moment-là, tu vois. Et puis, en 1817, le gouvernement britannique a dit « bon, bah, c'est bon, on s'en va ». Et il y a un militaire avec sa famille, et puis un autre militaire qui ont demandé à rester sur l'île. Et après, ouais. Il y a des naufragés qui régulièrement sont arrivés.
Ouais.
Et le peuplement de l'île, c'est ça en fait.
C'est des descendants de naufragés. C'est des descendants de naufragés tous.
Ouais, c'est des descendants de naufragés.
Ou alors, de temps en temps, j'ai lu ça, il y a un personnage qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi. Et quand il vient, bah, il le garde. Il l'empêche de partir. Hein, Joël ?
Ouais, c'est ça.
Ils vont te garder, ils vont te mettre dans une petite maison pour à but reproductif, pour que tu fasses des seins. Comme étalon. Ils vont te garder comme étalon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Fais gaffe, hein. Ouais. Après, ils vont te sacrifier à la pleine lune, comme l'autre là. Et mais qu'est-ce que tu fais là-bas ? Pourquoi t'es allé là-bas, toi ? C'est comme ça, pour voir ?
Ouais, il y a la dimension beaucoup pour voir. Et ouais. Puis bon, je suis un passionné d'oiseaux et puis bah il y a deux espèces en fait. Il y a l'albatros de Tristan que tu trouves ici, qui est un albatros avec si tu peux aller sur le net, il a un bec jaune. Enfin, c'est un oiseau magnifique.
Ouais.
Et le pingouin de Rob Napier, alors lui c'est un clown, il a des sourcils, des plumes jaunes, et quand il se balade, bah, t'as l'impression d'être dans un cirque, quoi. Et ils sont là, ils sont évidemment très très peu farouches, hein, puisqu'ils voient pratiquement pas d'humains, tu vois, donc ils ont pas peur, quoi. Et quand tu vas dans les zones où ils sont, et ben,
voilà,
2 mètres, ils viennent carrément te becter les chaussures et tout, quoi.
Donc t'es allé au bout.
Donc j'y suis allé et pour ça.
Ouais. Et pour voir le lieu.
Et
quoi.
Puis pour. Pardon.
Et non, j'allais dire et pour découvrir cet endroit incroyable, quoi, quand même.
Ouais, c'est ça. Pour la dimension un peu humaine. Tu vois, il y a 3 ans, plus de 3 ans que j'ai l'autorisation du Conseil des Sages parce que. C'est britannique, mais c'est une île très très autonome. Donc il y a le Conseil des Anciens, élu démocratiquement tous les 3 ans, et il n'y va pas qui veut. Hein. Tu vois, visiteurs, tourisme, tu prends le bateau. Non, c'est 3 ans que je suis sur liste d'attente, que j'étais déjà prêt à partir. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, j'ai perdu un billet d'avion. Et là, je l'ai su le 8 août, en disant... Bon, bah, il y a une place, vous la prenez, réponse dans les heures là qui viennent. Et donc, je suis venu à bord du brise-glace, la Gulas qui part du Cap. Et en passant, il m'a déposé, il allait sur l'île de Gauss. Et là, il repasse et j'embarque vendredi, théoriquement. Je dis théoriquement parce que, en fait, tu choisis d'aller à Tristan.
Ouais.
Une fois que t'es ici, tu décides de plus rien, quoi.
Oh, c'est fou.
Parce que c'est le temps qui décide, quoi.
Ah là là, ça doit faire du bien de se mettre en dehors du monde comme ça.
Ah mais c'est... Écoute, j'ai pas de news, pas d'informations, pas de pollution, pas de bruit. La route, elle fait 3 km de long pour aller au champ de patates. Et c'est à hallucinant. Et le jeu, ça c'est...
Le jeu.
Je tiens à le dire, le jeu J-E, ça n'existe pas en fait.
Ah oui, forcément.
Tu vois, il est inconcevable de dire je vais prendre un bateau et je vais pêcher du homard. Tu vas pas y aller parce que c'est trop... Donc quand tu veux faire ça, là, et quand tu vas aller attraper tes moutons pour les marquer, alors c'est... Ils font comme les lapons, hein. Ils les marquent avec les rennes, tu sais, il n'y a pas de numéro avec des normes, etc. Ils les rassemblent une fois l'an et ils font des marques dans l'oreille, quoi. Et là, ils savent que ce mouton-là, il est à telle famille, à telle personne, etc.
Il n'y a pas de... Quand tu dis il n'y a pas de jeu, c'est que tout est forcément communautaire, collectif. On peut pas vivre, on peut pas, seul, tu t'en sors pas, quoi.
Non.
Quel endroit. Bon, bah écoute. Joël, merci beaucoup. Hein. Donc, on découvre l'île de Tristan d'Acuna. Je connaissais pas. Le dernier endroit au monde où il n'y a personne. Enfin, où il y a isolé, quoi. Isolé du monde. Enfin, il y a quand même le téléphone et du coup, il y a Internet, j'imagine.
Ouais, alors le Internet, j'avais avec un pote envisagé un relais pour alimenter un petit blog. Mais c'est trop compliqué, quoi. Les faisceaux, alors l'Internet, tu mets trois plombes à télécharger un message. J'ai un peu pris de distance. Il y a des moments, ça passe. Il y a des moments, ça passe pas. Et le téléphone, alors j'ai pas tout compris. Ça passe par Londres, par des numéros, je sais pas, le satellite, certainement. Mais
il
y a des connexions.
En tout cas, ça a marché. Là, c'est arrivé jusqu'à nous. Bah, c'est bien.
Ouais.
Joël, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël. C'était assez étonnant de t'avoir.
Ça m'a fait plaisir de... Je vais simplement, si tu permets, dire 3-4 mots ricochés de Tristan d'Acuna jusqu'à Saltis, Jutpen, Bad Boy et tout ce réseau un petit peu là du bout du monde.
Ouais.
Jusqu'à là-bas et jusqu'aux auditeurs que je salue et toute l'équipe d'Allo la Planète, quoi.
Merci beaucoup, Joël. Je crois que c'est le coup de fil le plus loin qu'on ait eu. Merci. À bientôt, Joël.
Ouais, ça fait plaisir. À bientôt, Eric.
Salut.
Et salut, Anne-Claire. Au revoir.
Salut, Joël. Merci. Bonjour aux pingouins et à l'albatros, alors. Dans un instant, c'est Marc qui sera là. Marc ?
Oui, Marco.
Salut, Marco. Ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, j'ai bien regardé ton film. Sympa.
Ah oui, vous a pas plu ?
Ah, sympa. On en parle dans un instant. Marco a fait un voyage autour du monde et au cours de ce voyage, il a pu assister et filmer, ça qui est étonnant, une cérémonie funéraire traditionnelle tibétaine. On y revient dans un instant. Bouge pas, Marco, juste après Métronomie, que voici dans Allô la planète.
Keep on writing.
Le Move, Allô la planète. Allô la planète, avec Eric Lange.
Et avec Marco, donc, qui revient. Vous êtes rentré quand du tour du monde, Marco ?
Le 15 août.
Le 15 août, tu t'es baladé un an ?
Oui, un peu plus d'un an.
Un an avec ta femme, on s'était parlé, hein, je sais
oui,
plus quand.
Oui, depuis le Mexique, depuis Guadalajara.
Voilà, tu t'es baladé après t'être marié au Japon, non, si.
Oui, à Tokyo, on s'est marié. Avant le tour du monde, on s'était marié à Tokyo.
Vous êtes marié à Tokyo, et après le tour du monde, vous allez vivre où ?
Là, on est juste quelques temps au Pays Basque chez la famille, on repart en Amérique du Sud, on a déjà acheté le billet, on s'en va le 5 novembre.
Vous allez vous installer là-bas ?
Non, on va pour faire un voyage de 3-4 mois.
Ah d'accord, après un tour du monde, vous dites, tiens, on va se reposer, on va aller faire un petit voyage.
Oui, voilà, parce qu'on voulait plus se concentrer sur l'Amérique du Sud, parce qu'on est juste fait la Colombie, donc on voudrait faire un peu plus.
Ah bah ouais, je comprends. Mais qu'est-ce que vous faites comme métier, tous les deux ?
Moi, je suis cuisinier.
Ah bah oui, tu peux bosser n'importe où.
Voilà, et ma femme, elle travaille souvent avec moi.
D'accord, et tout va bien, la vie est belle, c'était bien ce tour du monde, ouais.
Ah oui, c'est super, ouais.
Ouais, vous êtes passé par tous les continents ?
Non, on n'a pas fait l'Océanie parce qu'on avait déjà fait le tour de l'Australie en un an. Donc du coup, on a dit qu'on n'allait pas repartir.
Mais vous arrêtez pas, vous ?
Bah non, on s'est rencontrés en voyage. Je l'ai rencontrée en Australie, ma femme.
Ah, j'avais oublié ça. D'accord. Ouais. Et elle est japonaise, ta femme, hein, c'est ça ?
Oui, elle est japonaise.
D'accord. En faisant le tour du monde comme ça, petite question, est-ce que vous avez eu des approches différentes de ce que vous découvriez tous les l'un et l'autre, du fait des différences de culture ? Est-ce que vous avez eu des réflexions, des machins ou...
Non, rien de spécial.
Non, d'accord. Dis donc, tu nous as envoyé un film étonnant. C'était où cette histoire de cérémonie funéraire ?
Oui, voilà, parce qu'en fait, dans le tour du monde, on allait en Chine et on allait dans l'ouest du Sichuan, dans les montagnes à côté du Tibet.
Ouais.
Et donc, on est allé dans un village qui s'appelle Larungargompa. C'est un village où il n'y a que des moines qui habitent. Mais il y a des milliers de moines. Toutes les maisons sont rouges, la couleur des moines.
Ah bon ?
Des moines hommes et des moines femmes, ils ont chacun leur temple. Et dans cet endroit, ils font les cérémonies funéraires. Ça s'appelle les sky burial. C'est les enterrements traditionnels tibétains où, en fait, on donne les corps des morts à manger aux vautours.
Voilà, ouais. Et c'est étonnant parce qu'ils vous ont laissé filmer, regarder, sans problème.
Oui, mais en fait, on en assistait à deux. La première, c'était dans un autre village qui est à côté, c'était Litang. Alors là, par contre, il n'y avait pas le droit de filmer. Il fallait être à minimum 30 mètres de la scène.
Ouais.
Il n'y avait que la famille. On n'était que 5 touristes, quoi. C'est super loin. Par contre, dans ce village, la Larungargompa, c'était plus comme un spectacle. Et tout le monde pouvait filmer, prendre des photos. Bon, moi, j'étais le seul touriste européen. Enfin, j'étais le seul blanc. Il n'y avait pas d'Américains ni d'Européens. Ouais. Il n'y avait que des touristes chinois.
Parce que, bon, voilà. Alors, c'est assez gore. Hein. On explique qu'il y a les corps qui sont étendus par terre. Ils sont coupés.
Voilà. Ils les amènent. En fait, ils réunissent tous les corps de la région. Parce que, en fait, c'est un honneur de se faire enterrer dans cet endroit. Enfin, manger, quoi. Et du coup, ils amènent tous les corps, et après, il y a un boucher qui arrive, il déshabille tout le monde, et après, il coupe dans la chair, quoi, il découpe un peu.
Ouais, il découpe les corps en morceaux, en gros morceaux. Ouais,
il découpe en morceaux, et après, du coup, une fois que c'est prêt, les vautours arrivent, mais les vautours, ils arrivent avant que ce soit prêt, parce qu'ils n'arrivent pas à se retenir. Les vautours arrivent, ils se jettent dessus, et en une minute et demie, deux minutes, il n'y a plus rien, quoi, il ne reste que les os.
Ouais, et puis alors, il y a des dizaines de vautours qui arrivent comme ça, et alors, sur le film, on voit bien, c'est assez impressionnant, parce qu'au début, on voit les corps qui sont là, et puis il y a les vautours qui arrivent, et puis on ne voit plus rien, on voit une espèce de...
Je sais pas, non, une marée de vautours.
Une marée de vautours, comme ça, qui bouffe tout. Ah ouais, ça ne dure qu'une ou deux minutes.
Ouais. Et après, donc, il reste les squelettes, et donc après, le boucher revient, il coupe la colonne vertébrale et tout ce qui reste, et ouais. Après... Comme les vautours ne mangent pas les os, ils passent dans un broyeur, en fait, qui reste. Et ça fait un broyeur, c'est un bruit affreux, quoi, les os qui sont écrasés et tout. Et ça sort une espèce de purée, de poudre, purée rouge. Et après, les vautours, ils mangent ça. En fait, il ne reste plus rien.
Il ne reste plus rien. Tout doit disparaître. Tout doit être mangé par les vautours.
Ouais.
L'explication de cette histoire, c'est quoi ? Pourquoi ils font ça, hein ? Tu le sais, ça ?
Eux, ils disent qu'en fait, qu'une fois qu'ils sont morts, le corps n'a plus aucune importance.
Oui, mais ils pourraient faire comme nous, le mettre dans la terre et le laisser pourrir, quoi. Non, il faut...
Ouais, mais justement, ils pensent qu'avec les vautours, ça aide à mener l'âme au ciel.
Ah d'accord, les vautours, en emportant ton enveloppe charnelle, l'emmènent au ciel. Parce que j'avais vu un truc comme ça, moi c'était en Inde, avec les Parsis je crois, il y a des tours funéraires comme ça à Bombay, t'as pas entendu parler, où ils mettent, oui. Ils mettent les corps en haut des tours, et les vautours et les corneilles viennent et mangent les corps. Mais là, si j'avais bien compris, l'explication c'est qu'ils ne veulent pas que notre enveloppe charnelle salisse les éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc du coup, quand tu dois pas salir aucun des éléments, donc tu peux pas l'enterrer, tu peux pas le brûler, tu peux pas le mettre dans l'eau. Donc la seule solution, c'est de le faire bouffer par les oiseaux.
Ah, ouais. Moi, c'est écologique.
Oui, on peut dire ça. Oui. C'est impressionnant, dis donc, à voir sur place. Comme, parce que quand on regarde le film, là, je te dis pas, ça a soulevé quelques cris dans les bureaux ici, là.
Oui.
À voir en vrai, c'est dur, ou finalement, bon, il y a une ambiance bon enfant autour de ça.
Non, mais en fait, on voit d'un côté, il y a la famille avec les moines, et puis ils chantent, en fait.
Ouais.
Ils chantent et tout ça, et non, c'est pas. Ça, le pire, c'est l'odeur, quoi.
Ah ouais.
Il y a des corps qui ont mis une semaine, qui sont déjà pourris et tout, c'est un peu. Voilà. Après avoir, ouais, c'est un peu. Mais en fait, quand on est dans le truc, on se rend pas compte. Enfin, on voit.
Ouais.
C'est la cérémonie, on y a depuis le début jusqu'à la fin et tout. Mais après, bon, c'est vrai, si on voit juste la vidéo sortie de son contexte, c'est sûr que c'est surprenant.
Ouais, ouais. Tiens, y a un auditeur, Diego, tiens, qui était avec nous hier, il l'a vu aussi, au même endroit, dans le Sichuan. Ouais, il dit que c'est. Ouais, ouais. Les détails sont durs, mais l'idée à la base est fascinante. Donc l'idée d'emmener les corps dans le ciel.
Ouais. Et donc si on veut voir ça, il faut aller au Sichuan, parce qu'en fait, au Tibet, les touristes n'ont plus le droit d'y assister. Au Tibet, quoi. Ouais. Lhasa et tout ça.
Mais et puis au Tibet, pour entrer, c'est compliqué. Vous avez pu passer.
Oui, voilà, c'est compliqué. Et puis voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Ouais, ouais. Bon, bah écoute, merci pour ce chouette film de vacances.
Oui, de rien, merci à vous.
Si vous voulez aller le voir, on a mis un lien sur la page Facebook de l'émission, Sky Burial, l'enterrement traditionnel tibétain. Voilà, c'est.
Parfait. Après, si vous voulez, j'ai tout l'article complet sur mon blog, c'est voyageravecmoi.com, où il y a des photos et j'explique un peu tout.
D'accord, bah on met le lien, bien sûr. Bah voilà. Écoute, merci beaucoup. Merci Marco, oui. Bonne continuation. Embrasse madame, et puis passe-nous un coup de fil quand vous serez là-bas en Amérique latine.
Ok, ça marche, on se recontacte. À bientôt.
Ça marche, à bientôt.
Au revoir.
Et Rodolphe est avec nous du Japon pour le coup, lui. Rodolphe.
Oui.
Bonjour Rodolphe, bienvenue dans l'émission.
Salut, merci.
T'es étudiant au Japon ?
Ouais, c'est ça.
Comment on devient étudiant au Japon ? Tu fais quoi comme études ?
Je fais informatique. Je suis passé par un DUT et j'ai eu l'occasion de. Enfin, en gros, mon université elle a pas mal de partenariats à l'international, dont l'université au Japon dans laquelle je suis. Du coup, j'ai demandé, il fallait faire remplir pas mal de papiers.
Et ça a marché.
Ouais.
Ah, et alors, t'es où au Japon ?
Je suis à Sendai, c'est un peu au nord de Fukushima, à 2 heures de voiture de Fukushima.
T'es à 2 heures de voiture de Fukushima ? Et ça va, ouais. Tu te sens bien ?
Ouais, bah ça m'a un peu fait flipper parce que j'y suis allé en bus depuis Tokyo, ouais. Et on s'est arrêté juste à côté de Fukushima dans une aire d'autoroute. Donc ça m'a un peu fait flipper, mais bon. Apparemment, ça va. Faut juste pas manger la nourriture qui vient de la région, quoi. Faut privilégier ce qui vient du sud.
Tu m'étonnes. Et tu restes combien de temps là-bas ? C'est une année scolaire ?
Un an. Ouais, un an.
D'accord. Tes premières impressions. T'es arrivé quand ? C'est en début septembre, là, non ?
Ouais, je suis arrivé le 1er septembre. Du coup, aujourd'hui, ça fait un mois que je suis là. Que je suis, avant de venir à Sendai, j'ai un peu voyagé dans le Japon. Et ça fait une semaine et demie que je suis à Sendai.
Alors, tes premières impressions, comme ça, un peu à froid ?
Ouais, c'est pas mal. Franchement, le Japon, c'est vraiment cool.
C'est...
ouais, du mois que j'ai passé ici, pour l'instant, je sais même pas si je vais revenir en France.
Ah, un mois après, ça y est, il ne veut déjà plus rentrer. Qu'est-ce qui t'attire ? Qu'est-ce qui te plaît à ce point-là là-bas ? Qu'est-ce que tu trouves ?
C'est tellement safe. Genre, tu peux laisser ton vélo, même sans cadenas, en plein milieu de la rue. T'as peu de chances de te le faire voler, quoi.
Civisme, un grand civisme, ouais. C'est ça ? Un respect
des autres. Dans le métro, il y a tout le monde qui dort et avec leur sac à côté ouvert. Personne ne prend rien. Enfin, c'est...
Ouais. Mais tu connaissais le Japon, la culture japonaise avant de partir ? Tu découvres ?
La culture japonaise, je la connaissais vite fait à travers des livres, mangas et films.
Ouais.
À part ça, c'est totalement différent, quoi.
Oui, c'est un peu un de ces pays où on a du mal à comprendre. Les repères sont très différents.
Ouais,
la langue, les cris, la façon de voir le monde, tout est quand même un peu carrément d'ailleurs différent du monde occidental.
Bah, vu que c'est un pays voué à disparaître avec la montée des eaux, tout ça, ils ont quand même une vision assez, comment dire, jouir du jour, quoi.
Ah ouais?
Enfin, profiter, ouais. C'est.
Ah ouais,
Ouais,
c'est.
dès qu'ils ont l'occasion, ils vont boire un coup. Ouais, là, ça fait 4 semaines que je suis là, ça fait 3 semaines que j'ai pas passé une seule soirée sans boire un coup, quoi. Avec les
Festif.
Japonais.
Festif, le
Ouais.
Japonais. Festif. Au niveau des études, les cours, tout ça, c'est très différent de la façon d'enseigner en France?
Pour l'instant, je sais, j'ai suivi qu'un seul cours, ça a commencé aujourd'hui.
Ah d'accord. Bon.
C'était un cours de culture japonaise. Donc on a appris les significations des prénoms. Par exemple, dans les années après la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de prénoms qui avaient qui voulaient dire, enfin, qui faisaient référence à la guerre. Par exemple, il y a un prénom qui revenait souvent, c'était Tsuyoko. Ça veut dire en gros devenir plus fort, quelque chose comme ça.
D'accord.
Et du coup, à travers les prénoms,
Ah, il y a l'histoire, tu peux presque comprendre un peu de l'histoire du Japon à travers les
ouais, c'est
prénoms.
ça, c'est ça.
Ah, ouais. Et d'accord. Et tu
Mais
vis
du coup, au
comment?
niveau.
Tu vis comment? Parce que le principal problème au Japon, dit-on, c'est le logement. La vie,
Bah,
c'est
j'ai
cher.
un 18 mètres carrés, c'est une résidence étudiante spéciale pour les étudiants étrangers.
Ouais.
Je paye, je crois que c'est 6 900 yens, ça fait genre 60 euros pour 18 mètres carrés.
Ah, c'est pas cher, ça va.
Ah, pas du tout. Ouais. Par contre, c'est un peu crade. Il y a pas mal de cafards et tout. Mais
Ah
bon,
bah, on peut pas tout
on
avoir.
fait le ménage, j'essaie de garder tout clean histoire de pas les attirer. Mais j'en ai vu que deux pour l'instant.
Et au niveau de, par exemple, de la nourriture, c'est pas trop un choc culturel, ça va?
Ah, c'est tellement bon la bouffe ici. J'ai
T'as
pris
bien.
5 kilos depuis que je suis là.
Non.
Ah, franchement, c'est trop bien. En plus, les restos, c'est pas comme en France où c'est quand même assez cher en France, les restos. Ici, il y a plein de petits restos de genre 15-20 places et tu payes genre 10 euros, t'as un gros plat et une bière,
Ah, il est bien là-bas. Et...
quoi. Ouais, ah, je suis vraiment bien.
Ça te
Ouais.
plaît. Un petit mot juste, j'ai vu que tu étais passé par Hiroshima. Euh, c'est
Ouais,
impré
à Hiroshima.
c'est, c'est impressionnant.
Ouais, je suis allé au musée de la paix. Ce musée, en fait, il reconstitue l'histoire de la bombe atomique.
Ouais.
Et c'est vachement triste. Bon, quand j'y suis allé, c'était un samedi, c'était pas mal blindé. Il y avait pas mal d'écoliers, tout ça. Mais c'est assez dur. À la fin, bon, j'ai versé quelques larmes. C'est vraiment dur. Mais bon, je vraiment y aller. Après, je suis allé toujours à Hiroshima. C'est une île en plein milieu de l'océan. On peut monter en haut de la montagne. Enfin, c'est une grosse colline. Et avec une super vue sur l'océan et sur Hiroshima. J'y suis allé juste après le musée, histoire de me remonter un peu le moral.
Bon, bah Rodolphe, merci d'avoir pensé à nous. On te garde dans le grand livre d'Allô la planète, Agis comme Japon. Ça nous en fait un en plus. Et merci d'avoir pensé à nous. Bonne chance au Japon. Tiens, tiens-nous au courant. On
Merci.
jette des coups d'œil de temps en temps à ta page Facebook, tout ça. Mais n'hésite pas à nous appeler. Merci
Ça
Rodolphe.
marche.
Salut, à la
Merci à vous.
prochaine.
Ciao.
Alors, on
Ciao.
était censé avoir Georges, il n'est pas là. Hein. C'est Benoît qui est là. Ah, c'est nos amis des yeux de la tête. Salut Benoît.
Salut.
Ça va bien?
Ça va?
Bah oui, vous êtes où les
Super,
gars?
toi.
Bah vous êtes où?
Là, on est en Allemagne.
Vous êtes en Allemagne en tournée?
Oui. Exactement, entre Halle et Aachen, Aix-la-Chapelle. Là, on se dirige ce soir pour Aix-la-Chapelle où il y a un concert. Et
D'accord.
puis voilà, tout se passe bien, on est sur la route, quoi.
À tous ceux qui se demandent qui sont les yeux de la tête, eh bien les voici, on écoute.
J'aurais bien aimé passer à la télé en chantant de la pop et du rock. Faire des high feel, des walking down the street et que les filles se jettent à mes bottes. Oui, mais voilà, moi je suis qu'un pauvre François. Ma seule langue étrangère, c'est le patois. C'est tant pis pour moi, peut-être si j'essaye avec ça. Voulez-vous coucher avec moi? I don't speak English.
I don't speak English, le nouveau titre des yeux de la tête. C'est le nom de l'album aussi, Benoît.
Oui, tout à fait. C'est le nom du nouvel EP là, qu'on vient de sortir début septembre.
Et alors vous, donc
avec 4 beaux titres dessus.
Alors, Les Yeux de la Tête, un groupe français. Vous êtes originaire d'où? Rappelez-nous tout ça.
Bah, on est de Paris, en fait. On s'est rencontrés à l'école de musique à Pigalle.
Ouais.
Et puis voilà, tout le monde est de Paris ou de proche banlieue. Ça fait depuis 2006 qu'on est ensemble. Et ça a bien pris, ça a bien pris. Donc on continue, on n'arrête pas. Des gros festivals, des grosses salles. Là, on a fait une tournée avec pas mal de dates complètes là, cette semaine.
Et ça marche bien.
Et puis on revient. Ouais, ça marche carrément bien. En Allemagne et puis en France aussi. Du coup, on fait un petit concert un peu spécial à Pantin le 10 octobre.
Le 10 octobre.
Un concert à deux. En acoustique, voilà, pour fêter la fin de la tournée.
Et puis là,
on part encore un peu.
Et là, vous êtes en pleine tournée en Allemagne. Ça se passe comment? Vous êtes tous dans un bus
C'est ça. On est 8 dans un minibus avec le matos derrière, les instruments dans le camion, enfin dans le coffre. Hein, et puis nous, on a notre petit confort au milieu quand même. Chacun son siège, chacun son accoudoir, une télé. Non, ça va, on est bien.
Vous êtes combien?
On est 8 sur la route.
8.
On est 6 sur scène, et là on part avec notre ingénieur du son en tournée, et puis le tour manager aussi,
et alors,
une Allemande.
Il paraît que ça marche très bien en Allemagne, le public est
tout. Oui, carrément, ouais. Comme je te disais, il y a pas mal de salles complètes cette semaine, là on finit une tournée de 8 concerts, et on revient à partir du 14 octobre, où on se fait toutes les grandes villes, Berlin, Munich, Hambourg... Göttingen, tout ça, pour la vraie tournée de sortie de l'EP, en fait. Et là, on a encore, pareil, une quinzaine de concerts à la suite, enchaînés, et qui s'annoncent plutôt pas mal, quoi. Donc c'est vrai qu'on a pas mal de succès ici, on est bien contents.
On en a quelques-uns des groupes comme vous dans l'émission. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces groupes français qui vivent et qui survivent un peu en dehors du système?
Bah ouais, plus ou moins. Après, quand on est dans le système en France, on y est aussi. Hein. Il faut bien jouer. Nous, on joue un peu partout là où on nous appelle, quoi. Donc après, on a la chance là d'avoir cette opportunité beaucoup à l'international.
Ouais.
Donc on en profite carrément, quoi. Après, ça nous arrive aussi évidemment de faire des tournées en France. Donc là, on est dans le système entre guillemets classique, quoi, de tournées, de vente des disques, d'intermittence, etc. Quoi.
Ah bah oui, et les 507 heures.
Ouais, ils font bien. Exactement.
J'ai vu que vous étiez à La Réunion récemment.
Tout à fait, ouais. On s'est fait une petite semaine là-bas. On a été invité par un festival qui s'appelle le Manapani Festival,
ouais.
Qui est un festival de musique et de sport en même temps. Cette année, c'était l'escalade parce qu'ils ont eu des problèmes avec le surf, avec les requins, tout ça. Ils n'ont plus le droit de faire l'édition surf. Et donc, ils nous ont invités à venir. On a passé un peu moins d'une semaine là-bas. C'était magnifique. On a rencontré plein de monde adorable. On a vu un pays, région vraiment splendide. Quoi.
Oh bah elle est belle. Et donc, le rock dit rock Pigalle. Tiens, on va inventer ça comme définition. J'aime bien.
Le rock Pigalle.
Le rock Pigalle. Ça marche bien à l'étranger. Ils aiment bien. C'est le côté français qui leur plaît.
Carrément. Hein.
C'est
le côté, ouais, je pense que c'est un peu le côté français, cliché des Parisiens, tout ça.
Ah oui.
Et de la langue aussi, j'adore la langue française, quoi. Ils sont très très francophiles par ici. Et puis aussi, nous, on a pas mal d'influences rock, comme tu dis, et puis un peu d'électro, et pas mal de musique de l'Est, aussi un peu gypsy, manouche, Balkan beat, tout ça. Et ça aussi, ça, c'est très en vogue en ce moment, en Allemagne, Autriche, pays de l'Est.
Ah, ils aiment bien.
Très friand, ça. Du coup, on a l'ingrédient Frenchy, et puis en même temps, l'ingrédient musique de l'Est, qui fait que ça plaît beaucoup.
Ouais, le côté.
Il
faut voir leur vidéo, c'est le côté festif, un peu délire à la Kusturica. Un petit côté comme
ça. Ouais, c'est ça, carrément.
Bah oui, vous marchez.
C'est très festif, et ici, le festif n'est pas péjoratif encore comme en France, et du coup, les gens se lâchent, et voilà, ils ne sont pas blasés, ils ont vraiment une folle envie de faire la fête. Donc nous, on est là pour ça.
Bah ouais,
pour
oui, c'est
faire la fête.
C'est le côté, on fait du trombone, dans des champs avec des coques, tu sais, les images complètement barrées comme ça. Mais il y a un petit côté.
Ouais, c'est ça. Bah là, on a fait un festival ce week-end, là, c'était complètement ça, en plein dans les champs, il y avait plein de fanfares de l'Est et des choses comme ça. Ils avaient construit une espèce de mini-ville en bois, en cagette, auquel ils ont mis le feu à la fin du festival. Ça, c'est un énorme brasier. Et nous, on jouait devant, comme ça, sur une scène montée pour le truc. Et c'était fou, quoi. C'était vraiment une ambiance comme ça, comme tu dis, un peu dans la campagne bucolique. En même temps, une grosse fête, très Kusturicien.
Kusturicien, voilà, ouais. Tiens, allez, remonte un peu, on va en remettre un petit peu encore. Ah bah effectivement, c'est ça. Bon, bah bonne chance les gars, amusez-vous bien, pensez bien à nous.
Ouais, merci.
Roulez bien.
Ouais,
les dates.
Merci pour l'appel.
Bah, je t'en prie, les dates en Allemagne. Donc, si vous voulez les suivre en Allemagne, on va mettre un lien avec votre blog, votre site et toutes les dates sont là. Et puis,
ouais,
on retient.
Il y a la page Facebook Les Yeux de la Tête officielle que vous pouvez aller visiter. Sinon, on a un site Les Yeux de la Tête, c'est DLA, pas de la tête. Lesyeuxdelatête.fr. Là, il y a toutes les dates du 14. Octobre jusqu'au 25, on sera en tournée partout dans les grandes villes d'Allemagne. Et le 10 octobre à Pantin, à la menuiserie, pour un petit concert, les yeux dans les yeux.
Ça marche, le 10 octobre à Pantin, on retient celle-là en France. Et pour tout le reste, leur page voilà. Facebook, on met un lien avec notre page Facebook, nous, et sur lemove.fr. Merci, bonne route à vous.
Bah, merci beaucoup.
Salut.
Merci pour l'accueil.
Amusez-vous bien,
bientôt.
Ciao, à la prochaine. Bonjour. Bye. Bonne tournée. Le camarade Georges Alexandre à Bruxelles. Oui, parce qu'en fait, on l'appelle. On était un peu idiots sur ce coup-là parce qu'on s'est dit, oh, il fait une conférence de presse, on va l'appeler. Et on doit tomber en plein dans la conférence de presse. Ça se trouve, il y a plein de journalistes qui lui posent des questions. Donc, Georges Alexandre, c'est celui qui se balade avec son kayak en Méditerranée et en Europe. Il est remonté du sud de l'Europe jusqu'en Belgique, jusqu'à Bruxelles, en passant par les canaux sur son kayak, pour alerter les députés européens sur la situation des migrants à Lampedusa et notamment. La grande bataille, c'est les détournements des fonds donnés par l'Europe pour accueillir les migrants, fonds qui sont détournés par des mafias. Et Georges Alexandre n'en toujours pas. Bah, tu sais quoi, on va mettre... Qu'est-ce que tu mets, Ben l'Oncle Soul ? Allons-y, Ben l'Oncle Soul dans Allô la Planète.
Avec Eric Lange.
Allô?
Et alors donc, le camarade Georges Alexandre, ce sera pour demain. On saura comment s'est passée sa conférence de presse à Bruxelles avec les députés européens. Nous, on se retrouve dans 23 heures exactement pour fabriquer de nouveau ensemble 60 minutes d'Allô la Planète. Pour nous joindre d'ici là, allolaplanète@radiofrance.com pour les mails et la page Facebook, bien sûr. Ciao touti.